Terminus.
Et à 15h15, comme chaque vendredi, on accueille Coriane Guénette pour ce qu'on appelle la jasette de la petite Guénette. Coriane, bonjour.
Salut Sébastien.
Et aujourd'hui, tu nous arrives avec des questions, en fait plutôt des réponses à des questions qu'on se pose pas vraiment.
Oui. Exactement.
Je sais pas si dit de même, c'est super attrayant.
Mais... c'est bien résumé, du moins. Ouais, la chronique d'aujourd'hui part d'une belle conversation dans le cadre de porte avec Francis, tout simplement. Hein, nous, on est des gens qui sont payés pour parler. Mm-hmm. Ça paraît aussi quand...
au bureau.
Partout là, dans la vie. Donc, un rien nous inspire. En fait, je pensais à ça et il y a beaucoup de choses ou de phénomènes qui changent un peu rien dans notre vie. Donc, on prend pas la peine de se questionner sur ces sujets-là. En général, mais aujourd'hui, on le fait.
Okay.
Vous comprendrez que niveau pertinence, ça ne vole pas si haut. Hein? Vous ne referez pas le monde avec ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Mais des fois, on fait comme « Ah, ben c'est vrai. »
Ça peut faire un sujet de discussion.
Oui, puis « Ah, c'est vrai, c'est le même depuis toujours, mais on ne se pose pas particulièrement la question. C'est juste comme ça. » Mais là, on va savoir pourquoi c'est comme ça. Première question. Mais ça, c'est pas un temps. Pourquoi c'est comme ça? C'est un « c'est comment? » Plus « à quoi rêve une personne non-voyante de naissance? »
Ben, je sais pas.
Hein?
À des sons, à des trucs qu'elle a entendus.
À des odeurs.
À des sensations, ouais.
Ben, ça ressemble un peu à ça. Faut faire premièrement la distinction entre les personnes qui sont non-voyantes de naissance et les personnes qui ont perdu la vie plus tardivement, après 5 ans environ, parce que là, ben, ils ont déjà vu des choses, ils ont des souvenirs visuels. Donc, ils vont avoir la même structuration des rêves que toi et moi, c'est-à-dire essentiellement du visuel. Les personnes non-voyantes de naissance, par contre, ont évidemment pas de souvenirs visuels, ça va donc être leurs autres sens qui vont servir de base à la structure de leur rêve. Ils auront des souvenirs tactiles, auditifs, du goût, des trucs comme ça qui vont structurer leur rêve. Donc, ça doit être assez particulier de se l'imaginer.
Oui, mais parce que tu essaies de comparer avec ce que tu connais.
Avec ce qu'on connaît, exactement. Francis, il dit « Ah, on pourrait rêver à toucher une orange ». Ouais, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple.
Mais ça se peut.
Ça se peut.
Et on en fait des rêves niaiseux, là. Ça peut être n'importe quoi.
Et là là.
Ça, c'est un autre sujet.
C'est pour une autre fois. Mais je suis même pas sûre que je suis game de me lancer là-dedans. OK. Hey, prochaine question qu'on se pose pas, que c'est juste comme ça. Pourquoi on peut pas bronzer des paumes de main?
Ouais, ou en dessous des pieds.
Ou en dessous des pieds, paume de main, paume de pied. Même si on laissait nos mains au soleil pendant des heures, ben mes paumes ne bronzeront pas comme le reste de mon corps. Et je me posais aussi la question, par la même occasion, pourquoi on n'a pas de poils ou de duvet dans les mains? Ben, c'est un peu relié. Hein? Vous l'aurez remarqué, la peau de l'intérieur de nos mains est plus épaisse. J'ai l'impression que c'est encore plus vrai chez les gens qui travaillent beaucoup de leurs mains. La couche de l'épiderme mesure entre 0,8 et 1,4 mm au niveau des paumes versus 0,1 mm sur le reste du corps.
OK, donc il y a une bonne différence.
Oui, une bonne différence. Et en raison de cette épaisseur-là, ben, les paumes ne contiennent pas de poils et donc pas de follicules pileux. Hein? Elles gagnent les petits trous là, dans lesquels les poils prennent naissance. C'est ça l'affaire. Les follicules hébergent aussi les mélanocytes. Et les mélanocytes, rappelez-vous vos cours de science.
C'est ce qui fait la mélanine qui fait qu'on bronze.
Yes,
ou qu'on
monsieur.
Rougit.
Ou qu'on rougit.
En tout cas, qu'on a une teinte de peau.
C'est aussi les personnes avec la peau noire, ben, c'est aussi là qu'il y a une teinte de peau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de teinte de peau plus foncée à l'intérieur des mains. C'est une question qu'il n'y a pas de poils, il n'y a pas de follicules, il n'y a pas de mélanocytes, il n'y a pas de couleur. Donc, au-delà de l'épaisseur de la main, c'est aussi l'absence de... J'ai tapé dans ma main, je ne sais pas si vous avez entendu.
Moi, j'ai entendu, mais je suis dans la même pièce que toi.
au-delà de l'épaisseur de la peau, ben, c'est pas de poils, pas de tanne.
Donc, voilà.
On peut résumer ça de même. Pas de poils, pas de tanne. OK. Pourquoi la coriandre divise?
Ah, ben ça, je le sais. C'est à cause d'un maudit gène qu'on haït. Moi, je lis ce gène-là, puis ça goûte le yard. Vous me ferez pas changer d'idée. Je comprends que ça peut goûter bon, mais je vais jamais être capable de savoir exactement ce que ça goûte. Ça goûte le savon, cette affaire-là.
Ça goûte le yaourt qui dit, ben ouais, ça divise tellement à la coriandre. Ben, tu l'as dit, tu trouves que ça goûte le yaourt. Moi, j'adore ça, mais les gens n'aiment pas ça, c'est la pire affaire.
Moi, t'en mets là une feuille dans un repas, puis je vais te le dire tout de suite.
J'ai dîné chez des amis le week-end passé, et notre hôte a dit comme... « Oh mon Dieu, j'ai pas pensé de vous demander est-ce que tout le monde mange de la coriandre, j'en ai mis dans le guacamole. » Comme c'était sûr que personne mangeait son lunch si personne aimait ça, là.
Ouais, non, c'est ça.
Finalement, tout le monde en a mangé. On était un bon ratio de.
Mais tu sais, s'il y a un truc là-dedans, je vais le manger quand même, mais.
Mais tu trouves que ça gousse le yard.
Ça va être vraiment mon dernier choix. Okay. C'est vraiment ça. Tu veux me scraper une salsa, mets de la coriandre dedans.
OK, ben écoute, je trouve ça le fun qu'on ait les deux points de vue.
Ouais, c'est plate. Comme moi, quand j'ai une recette avec de la coriandre, je remplace ça par du persil.
Ouais, c'est souvent
je
ça.
Mets
que...
du persil plat pour compenser, avoir une herbe, quelque chose, mais non, la coriandre, tu m'auras pas. C'est un gène, c'est bien plate, mais c'est ça.
Coriane adore la coriandre.
Ça aurait été plate que t'aimes pas ça.
Ça aurait été bien plate. Il y a une autre hypothèse, par contre, là, Seb, à part le gène, là, c'est un petit peu moins poussé. C'est Jay Gottfried, qui est chercheur en neurosciences à l'Université de Northwestern de Chicago. Et lui, il dit que le dégoût inspiré par la coriandre, c'est lié, bien sûr, un peu à son odeur que plusieurs associent au savon, comme tu disais. Mais d'après sa théorie, notre cerveau ferait comme une espèce de classement. Classerait automatiquement les odeurs par catégorie en fonction de ce qu'il connaît. Et là, ben, il classerait la coriandre comme un potentiel produit d'entretien et non comme de la bouffe. Donc, le cerveau rejetterait l'aliment en se disant « ben, c'est pas comestible, c'est pour laver mon plancher ».
Mais moi, c'est pas tant l'odeur, c'est vraiment le goût.
C'est vraiment le goût.
Mais de la graine de coriandre, par exemple, ça moulu, ça c'est très bon, j'en mets dans mes recettes, dans tout ça. Mais c'est vraiment la feuille de coriandre qui goûte. Ben, ça m'écœure pas, mais qui n'est pas mon choix d'herbe favorite.
C'est pas génial.
Parce que ça goûte moyen dans ma bouche.
Ben, le gène, Sébastien, c'est le gène OR6A2 qui est impliqué dans la détection de l'odeur d'aldéhyde. L'aldéhyde, qui est un composant chimique qu'on trouve dans la coriandre, mais aussi dans le savon.
Ah, ben c'est ça.
Fait que c'est pour ça que tu assimiles un peu ces deux éléments-là. En terminant, une petite dernière rapidos, pourquoi certaines personnes seulement peuvent bouger leurs oreilles?
Parce qu'ils sont pratiqués?
Non, pas nécessairement. Moi, je fais pas partie de cette catégorie de personnes qui possèdent ce talent. Ça m'impressionne bien gros.
Ben,
oui, mais il y en a qui se sont jamais pratiqués.
Hey, non, hein?
Pas tant.
J'ai l'impression que
c'est
que
plus ta tête qui...
C'est tout le reste qui bouge, puis l'oreille bouge.
Non, mais il y a des gens, Seb, là, qui bougent leurs oreilles, mais comme leurs oreilles, là. Simple, seulement leurs oreilles. Comme plusieurs choses, c'est un vestige de notre évolution. Il y a seulement 22 % des gens qui sont capables de faire bouger une oreille.
Ben seulement, c'est quand même une personne sur cinq.
Oui, c'est quand même bon, mais c'est pas tout le monde, là, comme comparé à, mettons, bouger nos doigts.
Oui.
Et il y a juste 18 % de la population qui peut faire bouger les deux. Mais chez nos ancêtres, le muscle qui permet de faire ça était beaucoup plus développé. C'était pas spécial, là. Dans le temps, c'était normal de faire ça. Et tout simplement parce que avant, le muscle de la mâchoire qui est relié aux oreilles était très sollicité. Avec l'évolution des repas, de notre communication et tout, ben, ces muscles-là sont devenus moins performants parce qu'ils étaient moins sollicités.
C'est depuis qu'on fait cuire notre bouffe qu'on peut plus se boucher les oreilles.
Ben,
bouger les oreilles.
On s'entend que chiquer du mammouth, ça te muscle une face sur un temps. Donc là, notre nourriture est plus tendre et tout. On a moins besoin de solliciter les muscles de visage. Et ça fait que c'est un petit peu plus rare qu'on puisse bouger nos oreilles.
Bon, ben une personne sur cinq, c'est pas si mal. Ça se trouve quand même facilement.
Textez-nous, les bougeurs d'oreilles.
Coriane, merci beaucoup pour ces questions qu'on prend pas toujours le temps de se poser. Puis ben, peut-être que ça reviendra, ça, à un moment donné.
Potentiel segment récurrent.
Ben oui, pourquoi pas? Parce qu'il y a sûrement plein d'autres
questions.
Il y en a plein. Ben, posez-les-nous, les questions que vous prenez pas le temps de vous poser. Peut-être qu'on ajoutera ça à la liste de Coriane pour
Prochaine
chronique. Merci, là, bonne fin de semaine.
Toi aussi, salut.